Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, il est 6h, temps universel. Très content de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui. Une demi-heure d'infos sur la VOA. Jacques Aristide et Anne Albertson avec vous en ce mardi 3 juin 2014. Bonjour Anne.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Les titres ce matin, au Nigeria, la police interdit les manifestations en faveur des lycéennes enlevées par Boko Haram.
Kathleen Daniel, porte-parole de la police à Abuja, a affirmé hier que cette décision a été prise pour des raisons de sécurité.
Une nouvelle plainte a déposée au Sénégal dans l'affaire du Congolais Floribert Chebeya, éminent défenseur des droits de l'homme retrouvé mort il y a 4 ans. En Libye, le nouveau gouvernement d'Ahmed Mitik s'est installé au pouvoir malgré le chaos. Et dans la partie magazine, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation de la Côte d'Ivoire fait le bilan.
La population souhaite la réconciliation. Les Ivoiriens disent qu'ils sont fatigués des crises. Les populations veulent en sortir. S'il y a eu victime, c'est qu'il y a eu auteur.
Également te programme les sports et la musique du jour. Au Nigeria, les manifestations de soutien aux lycéennes enlevées par Boko Haram sont désormais interdites dans la capitale fédérale, Abuja. Bagasikoura.
Kathleen Daniel, porte-parole de la police à Abuja, a affirmé hier que cette décision a été prise pour des raisons de sécurité. Il n'a donné aucun autre détail, mais Femi Falana, avocat des organisatrices des manifestations, a fait savoir qu'il va contester cette décision devant la justice. Plusieurs manifestations ont été organisées à Abuja depuis l'enlèvement le 14 avril de plus de 200 jeunes filles à Chibok, dans l'état de Borno. Mais mercredi dernier, pour la première fois, des jeunes ont attaqué les manifestantes. Certains assaillants portaient des messages de soutien au président Goodluck Jonathan. Toutefois, le ministre de l'Information, Labaran Maku, a démenti tout lien avec le gouvernement, accusant à son tour des membres de l'APC, le principal parti d'opposition. Ces manifs pour la libération des lycéennes ont eu un grand écho dans le monde et sur les réseaux sociaux, avec notamment le mouvement « Ramener nos filles » qui a eu le soutien de Michelle Obama et du pape François.
Une nouvelle plainte dans l'affaire Chebeya. Floribert Chebeya, 47 ans, directeur exécutif de l'ONG congolaise La Voix des Sans-Voix, avait été retrouvé mort le 2 juin 2010 dans sa voiture à Kinshasa. La plainte a été déposée hier au Sénégal contre Paul Mouilamboué, un des auteurs présumés, par les avocats de l'ONG FIDH et des familles de Chebeya et de Fidel Bazana, un proche collaborateur qui est, lui, porté disparu. La FIDH et les familles des victimes, qui se sont constituées cette fois-ci partie civile, appellent la justice sénégalaise à arrêter le suspect et à lancer au plus vite une procédure judiciaire. Pour leur avocat, maître Hassan Diomandiaye, cette plainte au Sénégal permettra d'ouvrir une enquête impartiale et indépendante, en l'absence, d'après lui, de procédures équitables menées dans un délai raisonnable en République démocratique du Congo.
Human Rights Watch rejette en bloc les accusations de parti pris politique formulées récemment par le gouvernement rwandais. Daniel Bekele, directeur Afrique de l'ONG américaine, dit maintenir les derniers rapports sur le Rwanda. Kigali a notamment fustigé le groupe pour avoir dénoncé le mois dernier des disparitions forcées sans attendre les réponses du gouvernement à ce sujet. Le ministère rwandais de la Justice a qualifié l'ONG de porte-voix de groupes terroristes menant une campagne de propagande contre le Rwanda. Le ministère a même menacé de ne pas renouveler le protocole d'entente qui lie l'ONG aux autorités rwandaises. Pour Human Rights Watch, de tels commentaires vont dans le sens d'une mauvaise représentation de son travail au Rwanda depuis plus de 20 ans et d'un dénigrement de son personnel.
En Libye, le nouveau gouvernement d'Ahmed Mitig a annoncé hier soir avoir pris possession du siège de la primature à Tripoli, malgré le refus du cabinet sortant d'Abdullah al-Thani de lui remettre le pouvoir. La police a dû intervenir pour permettre au nouveau régime de s'installer au pouvoir. M. Mitig a réuni immédiatement ses ministres pour la première fois au siège du gouvernement. Dans une brève déclaration après la réunion, le Premier ministre a dénoncé les affrontements entre des militants islamistes et un groupe mené par un général à la retraite, des combats qui ont fait au moins 20 morts à Benghazi. Aucune déclaration pour l'heure d'Abdullah al-Thani, qui se trouvait ailleurs à Tripoli.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour suprême des États-Unis a refusé hier d'intervenir dans le débat sur la protection des sources des journalistes. James Risen du New York Times est sommé de les révéler dans une affaire impliquant la CIA et risque la prison. Dans son livre State of War, publié en 2006, le prix Pulitzer avait décrit le projet avorté de la CIA d'envoyer en Iran un ancien scientifique russe pour transmettre des informations erronées et tenter de saper le programme nucléaire iranien. Delphine Algan, directrice de Reporters sans frontières aux États-Unis.
Nous sommes très inquiets par cette décision qui signifie, pour être clair, que ce journaliste du New York Times, lauréat du prix Pulitzer, risque aujourd'hui la prison parce qu'il a toujours indiqué qu'il refuserait de donner ses sources. Et la décision de la Cour suprême de ne pas se saisir de son cas signifie que James Risen devra suivre la dernière décision de justice qu'il appelait à révéler ses sources. Le seul espoir qui reste aujourd'hui pour que James Risen ne finisse pas en prison, c'est simplement l'attitude qu'aura l'administration Obama envers son cas. Le ministre de la Justice, Eric Holder, a implicitement expliqué la semaine dernière que tant qu'il serait procureur général, aucun reporter aux États-Unis n'irait en prison, ce qui laisse un peu d'espoir dans ce cas, mais en règle vraiment générale, ça a été d'abord de la déception et surtout de l'inquiétude face à cette décision de la Cour suprême.
Delphine Algan de Reporters sans frontières, des propos recueillis par Idriss Fall.
Un pirate informatique russe est accusé d'avoir dirigé un complot international qui aurait ciblé des centaines de milliers d'ordinateurs et fait main basse sur plus de 100 millions de dollars. Parmi les victimes du groupe mené par Yevgeny Bogachev se trouvent une tribu amérindienne, une compagnie d'assurance et une société qui gère des centres pour personnes vulnérables. Les membres présumés du groupe sont originaires de la Russie, du Royaume-Uni et de l'Ukraine. Bogachev échappe encore aux autorités, alors que Moscou refuse généralement d'extrader les présumés criminels vers d'autres pays.
Début des opérations de vote ce mardi dans les zones contrôlées par le régime syrien. Cette présidentielle ne laisse place à aucun suspense puisque Bachar al-Assad est assuré de l'emporter 3 ans après le début de la révolte. Nicolas Pinou.
Oui, selon le ministère syrien de l'Intérieur, 15 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Le scrutin ne pourra toutefois pas avoir lieu dans les zones tenues par les rebelles ou théâtres de combat. Les forces armées de sécurité sont en état d'alerte maximum. Plus de 9000 bureaux de vote installés à travers le pays sont sécurisés, assure le quotidien Al-Watan, proche du régime. Le parti Baas au pouvoir depuis un demi-siècle, d'autres partis politiques syriens et des dirigeants religieux ont appelé à réélire M. Assad. Mais l'issue de cette élection, organisée selon une loi excluant de facto toute candidature de l'opposition, ne fait aucun doute, M. Assad affrontant 2 candidats inconnus servant de faire-valoir. L'opposition a appelé au boycott, dénonçant une élection du sang, alors que le conflit a fait plus de 162 000 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
En Inde, la police a utilisé hier des canons à eau dans le nord du pays contre des manifestantes descendues dans la rue pour dénoncer les violences faites aux femmes. Les protestataires se sont insurgés après le récent viol en Réunion et le meurtre de 2 adolescentes. Elles s'étaient rassemblées devant le siège du gouvernement de l'Uttar Pradesh où les 2 cousines ont été retrouvées pendues à un manguier après avoir subi de multiples violences sexuelles. 5 hommes, dont 2 policiers, ont été arrêtés dans cette affaire qui survient après une longue série de viols collectifs ayant ébranlé la Grande Péninsule.
Enfin, le président américain Barack Obama entame par la Pologne une visite en Europe dans un contexte marqué par la crise ukrainienne. Issa Napon.
La visite du chef de l'exécutif américain en Pologne, en Belgique et en France arrive en pleine guerre en Ukraine entre l'armée et les séparatistes pro-russes. Barack Obama doit discuter en Pologne avec le président élu d'Ukraine, Petro Poroshenko, avant de retrouver ses alliés à Bruxelles. Une rencontre organisée à la hâte après le boycott du sommet de Sochi par le groupe des 7. L'annexion de la Crimée par la Russie en était la raison. En France, le chef de l'exécutif américain va s'exprimer en présence du président russe à Omaha Beach, en Normandie, pour la cérémonie marquant le 70e anniversaire du débarquement allié contre les forces nazies durant la Deuxième Guerre mondiale. Aucune entrevue n'est prévue entre Barack Obama et Vladimir Poutine, qui doit en revanche rencontrer le Premier ministre britannique David Cameron.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité. Merci Anne et à tout à l'heure. Vous êtes toujours branchés sur la VOA émettant de Washington. Le monde aujourd'hui se poursuit avec Jacques Aristide au micro. Cap sur la Côte d'Ivoire où la commission dialogue vérité et réconciliation fait le bilan après des semaines de travaux. Les points saillants avec Germaine Dri, notre correspondant à Abidjan.
La phase de la recherche de la vérité sur la crise qui a endeuillé la Côte d'Ivoire a commencé sur une quarantaine de sites d'écoute qui ont enregistré 16 000 personnes en 3 semaines. Elle se poursuivra encore sur 2 mois pour permettre à la CDVR de toucher le maximum d'Ivoiriens. Au cours de la conférence de presse qu'il a animée ce week-end à Yamoussoukro, Charles Kounabani s'est réjoui de l'engouement que prend cette étape de sa mission.
Il y a une adhésion importante des Ivoiriens au processus. Même si on en est satisfait, il y a encore besoin de l'amplifier. Au début, les centres d'écoute ont enregistré des affluences moyennes jusqu'à ce que nous remontions à une moyenne journalière de 30 à 40 personnes. Mais nous avons noté une évolution croissante des chiffres journaliers avec une légère hausse dans certaines localités où les taux avoisinent maintenant près de 100 auditions par jour.
Si la recherche de la vérité sur la crise ivoirienne polarise l'attention de nombreuses personnes, en revanche, la suite de l'opération constitue pour le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation une préoccupation.
Au bout de ce travail, c'est que l'État procède à la prise en charge des victimes par la réparation. La réparation, à mon sens, aidera les victimes à se préparer au pardon. Le pardon lui-même aidera à la réconciliation nationale. La population souhaite la réconciliation. Les Ivoiriens disent qu'ils sont fatigués des crises. Les populations veulent en sortir. S'il y a eu victime, c'est qu'il y a eu auteur. On ne peut pas dire que ces cas-là se sont produits, qu'on est à la fois sa propre victime et son propre bourreau. Je demande donc à mes frères de ne pas avoir peur.
Actualité oblige, 50 pro-Gbagbo, dont Yves Dibopieux, président du mouvement politique Solidarité africaine SOAF, ont été mis en liberté provisoire par la justice ivoirienne. Selon le ministre ivoirien de la Justice, cette libération est un signe d'apaisement en direction des partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo. Germaine Dri, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Direction maintenant la République centrafricaine. Un calme précaire est né hier à Bangui, la capitale, après des violences meurtrières la semaine dernière. Les activités ont repris timidement. Dimanche, le Premier ministre de la Transition, André Zapayeke, a annoncé que le 8 juin sera une journée nationale de désarmement volontaire à Bangui. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Abdoulaye Hissène Ramadan, coordonnateur politique du groupe rebelle ex-Séléka.
On n'en est pas là. Quand on parle de désarmement, il faudra que tous les acteurs s'assient autour d'une table. On trouve une solution. On fait le point de situation sécuritaire dans notre pays. Ensemble, tous les acteurs centrafricains, y compris tous les partenaires qui sont en train de nous aider. Ça fait des mois que le comité international sécurise le pays. Pendant 5 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on va s'asseoir. C'est tout Bangui qui sont armés. Maintenant, c'est des couteaux qui tuent, c'est des armes blanches qui tuent, c'est des bâtons qui tuent, c'est des arcs qui tuent.
À l'église Fatima, on a tué par balle. Donc, il faudrait bien faire quelque chose, comme personne ne semble maîtriser ses troupes, ni les Séléka, ni les anti-Balaka.
On n'est pas en train de parler de Séléka et Balaka. C'est tout le monde maintenant qui sont impliqués dans les problèmes de dégradation de sécurité dans le pays. On ne peut pas citer Séléka ou Balaka. On ne sait pas qui est qui fait quoi. Quoi, je dis? Il faudra faire ce qu'on appelle point de situation de sécurité avec tous les acteurs, bien sûr. La situation de sécurité, ce n'est pas au nom du Premier ministre, c'est au communauté internationale.
Visiblement, les forces internationales n'arrivent pas à le faire parce que quand on a assassiné ces 3 jeunes musulmans, on a eu des affrontements violents opposant les anti-Balaka à des musulmans armés.
Ça a répercuté. Vous savez que ces 3 jeunes musulmans étaient tués en plein Istat. Ils étaient découpés par morceaux. Personne n'a condamné. Maintenant, voilà, ça a répercuté. En même temps, le lendemain, ils ont attaqué la kilomètre 5, l'attaque de l'église. Tout le monde a condamné. Moi qui vous parle, j'ai condamné cette attaque. On ne peut pas attaquer une église. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on va désarmer tel quartier. Tout le monde est armé. S'il s'agit de désarmement, on va faire le point, on désarme tout le monde. Il faut d'abord réconcilier ces gens. On ne peut pas laisser ces gens-là celui la tue. L'autre dit, bon, ok, tu as tué mon parent, je vais tuer ton parent. Voilà, ça va continuer. On va continuer jusqu'au quand. C'est pourquoi il est important maintenant de s'asseoir. Tous les leaders, qui ce soit leader Balaka, Séléka, gouvernement central, FACA, et gendarmerie et la police, il y a des officiers supérieurs, des généraux des FACA qui sont là, qui ne disent rien. Ils sont là. Ce n'est pas seulement Balaka et Séléka. Où sont les FACA? Où sont les gendarmes? Où sont les policiers? Appelez tout le monde, on va s'asseoir autour de table, on trouve une solution, tout le monde. On va dire maintenant non. S'il y a quelqu'un qui va s'asseoir à côté, qui voulait faire des petits malins, ok, il va avoir des problèmes avec tout le monde. Et maintenant, si vous ne cherchez pas ça, vous commencez à condamner, non, celui-là est bien, l'autre n'est pas bien, vous choisissez les camps. Ça ne peut pas marcher dans ce discours-là.
Abdoulaye Hissène Ramadan, coordonnateur politique des ex-Séléka.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
En Égypte, le président élu Abdel Fattah el-Sissi a appelé ses compatriotes à serrer la ceinture. Le nouvel homme fort du Caire a averti qu'il faudrait des années pour réformer l'économie chancelante et d'ajouter que le pays se trouve à la croisée des chemins. Le compte-rendu de Jean-Roger Billon.
Nous sommes au Caire, dans un marché autrefois populaire auprès des touristes. Le tourisme et les affaires en général tournent au ralenti. Ahmed Allah est artisan. Il fait remarquer que le business n'est plus rentable depuis la révolution de 2011.
Avant la révolution, nous travaillions beaucoup et il y avait beaucoup de touristes en Égypte. Mais après la révolution, tout a décliné. L'économie en Égypte, dans son ensemble, et pas seulement le tourisme. Tout en décrépitude.
Everything is damaged and everything falls down.
Malgré la pauvreté ambiante, le nouveau président demande encore des sacrifices au peuple égyptien, des efforts qui vont impliquer une réduction du panier de la ménagère, des économies sur la consommation d'électricité, toutes choses censées aider l'économie nationale à se redresser. Le nouveau président promet une amélioration de l'économie et de la situation sécuritaire dans 2 ans, mais les activistes prédisent que le peuple égyptien ne pourra pas attendre autant d'années pour le changement. Abdelrahman Hani, syndicaliste, est certain que les Égyptiens vont finir par perdre patience.
Les gens vont descendre dans la rue pour 2 raisons. D'abord par rapport à Sissi, parce qu'il n'aura pas fait tout ce qu'il a promis en ce qui concerne la reprise économique. Et d'autre part, ils n'auront pas vu ne serait-ce que les premières mesures en vue de la reprise économique.
Monsieur Sissi sera le 3e président de l'Égypte en 3 ans et demi, après que les 2 derniers eurent été évincés par des révoltes populaires. Monsieur Sissi, ancien chef de l'armée et ministre de la Défense, gouverne de fait le pays depuis que l'armée a emprisonné l'ancien président Mohamed Morsi au mois de juillet. Saura-t-il être à la hauteur des espoirs qu'il a suscités? Les Égyptiens sont dans l'expectative.
Les autorités américaines défendent leur décision d'échanger 5 prisonniers talibans de Guantanamo contre le sergent Bo Bagdal, mais des militaires ayant servi avec lui affirment qu'il avait volontairement quitté son poste. Les républicains contestent pour leur part la légalité de l'échange de prisonniers ayant permis de libérer Bagdal. Ce qu'il faut savoir de cette polémique avec Timothée de Nongmaï.
Les soldats qui ont connu Bagdal à son arrivée en Afghanistan à l'âge de 23 ans rapportent qu'à sa disparition, il y a près de 5 ans, il avait abandonné son poste et ses armes pour partir vers une destination inconnue. Certains estiment qu'il doit répondre de cet acte. Des responsables militaires ont confirmé que Bagdal avait volontairement quitté son unité, mais disent ignorer ce qui a bien pu le pousser à prendre cette décision. Les soldats américains qui quittent leur position sans permission s'exposent à de graves accusations, notamment de désertion. Une telle action est peu probable dans le cas de Bo Bagdal, compte tenu de ses 5 ans de captivité aux mains des talibans, ont indiqué les autorités américaines. La question de sa disparition peut attendre, a fait savoir le secrétaire américain à la Défense, Chuck Hagel. Notre priorité est d'assurer son bien-être et sa santé et de le réunir avec sa famille. D'autres circonstances qui pourraient se révéler et les questions, on s'en occupera plus tard, a déclaré le patron du Pentagone. Au Congrès, le débat fait rage. Selon Chuck Grassley, le principal membre républicain de la commission judiciaire du Sénat, des membres de l'administration Obama ont admis avoir contourné des lois prévoyant une notification des législateurs 30 jours au moins avant toute libération de prisonniers à Guantanamo.
They violated the law.
Ils ont violé la loi et quiconque dans les services publics a prêté serment de défendre la loi doit honorer ce serment. À la Maison-Blanche, le porte-parole sortant, Jay Carney, rejette ces allégations. Les membres du Congrès ne devraient pas être surpris de la possibilité de cet échange de prisonniers car nous cherchions depuis longtemps à obtenir la libération du sergent Bergdahl. Les échanges de prisonniers dans des conflits armés n'ont rien de nouveau, a conclu Jay Carney. Les conditions de libération du sergent Bergdahl feront l'objet prochainement d'audiences au Congrès.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau de Sporama sur la Voix de l'Amérique. La Coupe du Monde au Brésil non-stop sur votre portable, c'est possible, allez sur voabrésil2014.com. Les matchs en direct, résultats photos et vidéos de cet événement planétaire à partager avec vos amis sur Facebook et Twitter. La Coupe du Monde non-stop, c'est sur voabrésil2014.com.
Place maintenant à la tranche sportive. Bonjour Nicolas Pineau.
Bonjour Jacques.
En football, J-9 avant la Coupe du Monde au Brésil.
Oui, les sélectionneurs qui ont donné leur équipe définitive pour le Mondial hier, les 23 éléphants de Côte d'Ivoire sont connus. Drogba, Gervinho, Yaya Touré sont là, sans surprise. Inattendu en revanche, la présence de Mathis Boly, le joueur du Fortuna Düsseldorf. La Côte d'Ivoire, je vous le rappelle, jouera dans le groupe C, pas si facile que ça, contre la Grèce, la Colombie et le Japon.
Les Lions indomptables ont également dévoilé leur équipe finale.
Oui, le sélectionneur allemand du Cameroun, Volker Finke, a dévoilé la liste des 23 joueurs. Jean-Armel Kanabiyik et Mohamedou Idrissou ont été écartés. En revanche, le jeune joueur du Coton Sport de Garoua ira au Brésil, Cédric Diogui.
Parlons transfert à présent.
Et oui, la presse anglaise annonçait hier soir que Frank Lampard, en fin de contrat à Chelsea, va quitter le club londonien. Le milieu de terrain qui ira au Mondial a joué 13 saisons avec les Blues, avec qui il a tout remporté, notamment la Ligue des Champions en 2012, la Ligue Europa l'année dernière et trois fois la Première Ligue anglaise. Cette saison, Frank Lampard a disputé 39 rencontres, toutes compétitions confondues, et inscrit 6 buts. Il pourrait s'engager avec New York qui a embauché hier l'Espagnol David Villa.
Et international tennis à Roland-Garros.
Et oui, sur la terre battue parisienne, le dernier rescapé français, Gaël Monfils, s'est hissé en quart de finale de Roland-Garros pour la quatrième fois de sa carrière. Il a dominé Guillermo Garcia Lopez en 3-7, 6-0, 6-2, 7-5. Et il affrontera le Britannique Andy Murray au prochain tour, tombeur de Verdasco. À noter également les qualifications de Nadal, Ferrer, Alep et Errani.
Merci Nicolas. L'heure maintenant de la rubrique musicale. Roger Muntou aux commandes, comme d'habitude. Salut Roger.
Bonjour Jacques. José Fajardo joue pendant plusieurs années des claves et des maracas dans l'orchestre de son père, Alberto Fajardo. Il apprend la flûte avec Fernando Sanchez dans sa ville natale avant de poursuivre des études musicales plus poussées à La Havane. On l'écoute ce matin dans Por la Maqueta.
Oye, dime. ¿Sabes cómo estoy?
¿Cómo estás?
Estoy por la maceta.
¿Cómo?
Sí, por la maceta. Oye,
dime.
¿Tú sabes cómo soy?
¿Cómo eres?
Yo soy muy cariñoso.
¿Cómo?
Sí, muy cariñoso. En la vida yo tengo muchas cosas muy buenas. No se las doy a cualquiera porque no se las merece.
José Fajardo, comme vous le dites si bien Roger, a poursuivi ses études musicales plus poussées à La Havane, mais en même temps, il partage sa passion avec une activité professionnelle, policier.
Oui Jacques, sa situation financière ne le permettait pas de vivre confortablement avec seulement le peu qu'il gagnait en tant que musicien. En 1959, après une tournée au Japon, Fajardo s'installe aux États-Unis avec une nouvelle formation. Il propage le dernier rythme à la mode dans l'île, la pachanga.
José Fajardo dans Por la Maqueta. Merci Roger.
De rien Jacques, un clin d'œil à notre fidèle auditrice à Itua à Brazzaville.
Rendez-vous quotidien avec Roger Muntou dans RM Show à 20h TU.
De la planta y te voy a demostrar que estoy por la maceta.
Voilà, belle ambiance sur la VOA. Avant de clore le monde aujourd'hui, un récapitulatif de l'actualité avec Anne Albertson.
Au Nigeria, les manifestations de soutien aux lycéennes enlevées par Boko Haram sont désormais interdites à Abuja. Une nouvelle plainte dans l'affaire Floribert Chebeya a été déposée hier au Sénégal. Le directeur exécutif de l'ONG congolaise La Voix des Sans-Voix avait été retrouvé mort en 2010 à Kinshasa. Human Rights Watch dit rejeter en bloc les accusations de parti pris politique formulées à son encontre par le gouvernement rwandais. Kigali a fustigé l'ONG pour avoir dénoncé des disparitions forcées sans attendre les réponses du gouvernement. En Libye, le nouveau gouvernement d'Ahmed Mittig a annoncé avoir pris possession du siège de la primature à Tripoli, malgré le refus du cabinet sortant d'Abdullah Al-Thani de lui remettre le pouvoir. Et puis le président américain Barack Obama entame par la Pologne une visite en Europe dans un contexte marqué par la crise ukrainienne.
Merci Anne Albertson qui était également à la réalisation. Merci à l'équipe qui m'a aidé à préparer cette demi-heure. C'était Jacques Aristide à Washington. Merci de votre fidélité. Très bonne journée à l'écoute de la VOA. Take care.
Dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program